de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer va prendre du champ par rapport au mouvement évangélique en 1974, après le congrès de Lausanne sur l'évangélisation, dont il avait été un des artisans les plus actifs, disons. Mais quand il va être en désaccord total avec la déclaration de foi qui va être publiée à l'issue du congrès de Lausanne, qui dit que la Bible est vraie dans ce qu'elle affirme. Et pour lui, dans ce qu'elle affirme est de trop. Parce que cela laisserait supposer que dans ce qu'elle évoque, sans l'affirmer d'une manière exclusive, elle se trompe. Et que par conséquent, c'est pour lui une manière déguisée de nier l'inhérence de l'écriture. Donc, Francis Schaeffer se désolidarise à partir de ce moment-là de la déclaration de Lausanne, qui encore aujourd'hui fait quasiment autorité dans tous les milieux évangéliques. Nombre de ceux qui y adhèrent d'ailleurs ne se sont pas rendus compte du piège, n'est-ce pas? Francis Schaeffer a été le seul à s'en rendre compte et à attirer l'attention évidemment des autres. Mais le mal était fait. Et Francis Schaeffer, donc, a considéré que cette déclaration, qui faisait qu'il se retrouvait plus ou moins dans la même situation que celle qui l'avait amené à quitter son église en 1938, il considérait que là, il y avait une dérive grave au sein du monde évangélique. D'autre part, il constatait que l'aile libérale qui existait dans le mouvement évangélique avait mis la main sur les deux rouages essentiels des appareils des églises, l'administration d'une part et les écoles bibliques d'autre part. Bon, il avait eu cette vision en 1975, c'est pas, il avait attiré en tout cas, il avait écrit sur ce sujet en 1975, et 25 ans après, 26 ans, on peut se rendre compte qu'il avait vu clair et que sa lucidité était totale. Et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit, comme on l'étudie, quand on étudie les problèmes du millénium actuellement en doctrine, et voir où on en est aujourd'hui dans les milieux évangéliques, il est évident que ces choses-là sont parties des écoles bibliques et sont parties des éléments les moins spirituels qui, dans les principaux appareils des églises, ont mis la main sur les rouages, sur la direction des églises, quoi. C'est évident qu'en général, les hommes de Dieu sont sur le terrain. Et en général, laisse justement les rouages de l'administration à des gens qui sont en général moins spirituels que les autres. Donc, il écrit dans la foulée son dernier ouvrage, The Great Evangelical Disaster, le grand désastre évangélique, pas traduit en français et pour cause, n'est-ce pas? Dans lequel justement il met en garde, c'est en quelque sorte son testament spirituel, il met en garde les évangéliques contre justement ces dérives qu'il a vues. Bon, c'est cette année-là que, d'une part, son beau-père décède, qui était son principal collaborateur, Dr. Seville, et aussi la chapelle du centre qu'ils ont à Uénèse, là-bas, brûle, il y a un incendie. Un an plus tard, donc, il contracte la maladie dont il mourra 5 ans après. Et ces dernières 5 années de sa vie, il les consacrera d'une part à lutter contre l'avortement, à lutter pour la liberté religieuse, qu'il sent également menacée. Là aussi, quelle grande lucidité. Et puis aussi aux côtés du syndicat Solidarité en Pologne, parce qu'il y voit aussi une forme de lutte pour la liberté religieuse, à laquelle évidemment il est tout à fait attaché. Il voit dans le combat de solidarité un combat fondamental pour le droit de répandre ses convictions. Et il pouvait annoncer, notamment dans The Great Evangelical Disaster, que la liberté religieuse, y compris aux États-Unis, en tout cas sous cette forme, la forme qui consiste à pouvoir librement diffuser ses convictions, est menacée. Il en avait fait l'expérience lui-même, notamment dans sa lutte contre l'avortement et l'infanticide, car il affirmait que la libéralisation de l'avortement ouvrait automatiquement la porte à l'infanticide. Et il s'était fait tellement contrer, intimider, voire même, je ne sais pas s'il n'a pas eu des procès, qu'il était bien conscient qu'au travers l'interdiction, en quelque sorte, ou la censure, pas une interdiction de manière ferme, mais la censure contre l'avortement présageait des choses plus graves ensuite à l'avenir, n'est-ce pas ? Et Francis Schaeffer s'interrogeait sur la capacité et sur la volonté des chrétiens de défendre leur liberté religieuse. Est-ce que déjà les chrétiens n'ont-ils pas baissé les bras par rapport justement à ce combat ? En fait, il faudra effectivement se rendre compte que il faudra des années aux chrétiens pour se réveiller de ce sommeil. Et ce ne sont que dans les dernières années du siècle et le début donc du 21e siècle que un peu partout les chrétiens occidentaux se rendent compte que leur liberté est fondamentale, leur liberté religieuse sont menacées et qu'ils commencent un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais bien sûr, à engager ce combat au sujet duquel d'ailleurs Francis Schaeffer les avait avertis depuis longtemps. Mais évidemment, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand le ciel est bleu, ce n'est pas un petit nuage qui pointe à l'horizon, qui masque le soleil et qui est en mesure de aussi alarmer ceux qui le voient. Mais évidemment, les météorologues, eux, savent que le beau temps ne durera pas. Enfin, c'est comme ça. Alors maintenant, nous allons essayer de voir les principaux points de la pensée théologique de Francis Schaeffer. Sa démarche est philosophico-théologique, parce que il pose aussi, comme il l'avait fait dès le début de sa démarche personnelle, qui avait été marquée par l'étude des philosophes grecs, les questions fondamentales de l'existence humaine. Finalement, les questions de tous les temps, de tous les hommes, de tous les lieux, de tous les temps. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le sens de notre vie, du monde ? La question incontournable à laquelle tout être humain se trouve confronté. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Car après tout, il aurait fort bien pu ne rien y avoir. Et ça, c'est une question à laquelle il faut absolument répondre. Pourquoi y a-t-il quelque chose beaucoup plutôt que rien ? Bon, la connaissance. Comment savons-nous que nous connaissons ? Est-ce qu'une connaissance est possible ? On appelle le problème philosophique de l'épistémologie. Est-ce que nous pouvons être sûrs que les choses sont vraies ou pas, finalement, la question de la vérité. Et constater justement que le monde moderne, occidental, avait perdu la notion même de vérité. Et que même parler de vérité aujourd'hui n'avait plus de sens, ce qui était un des gros problèmes de l'évangélisation pour lui. Parce que, comme il le disait au 19e encore, au début du 20e, il y avait un consensus, même entre des gens qui étaient engagés dans des controverses, c'est que quelque part, il existait une vérité. Le problème se posait de savoir comment connaître cette vérité et qu'est-ce qu'était cette vérité. Et les controverses, les débats portaient sur la nature de la vérité. Mais aujourd'hui, dit-il, le problème, c'est celui de la réalité de la vérité. Y a-t-il une vérité ou non ? Et l'homme moderne, y compris l'homme de la rue, va répondre « Non, il n'y a pas de vérité. » D'où le slogan « À chacun sa vérité. » Chacun se construit sa petite philosophie à son échelle, quitte à en changer d'ailleurs tous les 15 jours, réajuster constamment. Et ce faisant donc, dans la mesure où l'Évangile, la Bible, affirme avoir les réponses à ces questions. Ce qui l'avait frappé d'ailleurs, ce qui l'avait amené à sa conversion, c'est que c'était, disait-il, la Bible était le seul système cohérent qui répondait justement à toutes ces questions que l'homme de tous les temps et de tous les lieux se pose. Et par conséquent, la Bible a la prétention d'être la vérité. Mais justement, c'est cette affirmation-là que l'homme moderne rejette. Et la rejette avec horreur, puisqu'il n'y a plus de vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a jamais eu de vérité. Et le doute méthodique de Descartes fait que l'on ne sait même plus si les choses sont telles qu'on les perçoit. Le problème de la connaissance se pose. Alors, il faut rétablir justement la notion de vérité avant toute possibilité de réévangélisation du monde moderne, disait Francis Schaeffer. En effet, hors des choses matérielles, les idées n'ont donc plus d'importance, puisque rien n'est vrai. Même si un certain nombre de gens croient encore qu'il existe quelque part un Dieu, n'est-ce pas ? Ce Dieu ne fait pas grand cas, justement, de ses créatures, des croyances des hommes, et Dieu est le grand exclu et le grand vaincu, disait-il. L'humanisme a pris les rouages de la société, de la pensée des hommes. Et contrairement à l'idée que l'on s'en fait, même dans les milieux chrétiens, dit Francis Schaeffer, où l'on considère qu'il y a finalement des valeurs communes entre l'humanisme et le christianisme, et qu'il y a donc certaines sympathies vis-à-vis de l'humanisme, l'humanisme est pour Francis Schaeffer le grand ennemi du christianisme. Et il veut mettre en garde les chrétiens sur le caractère intolérant de l'humanisme moderne. En fin de compte, pourquoi cette intolérance? Pourquoi ce refus de permettre un libre débat dans le domaine des idées? Là, nous retrouvons ce problème de la liberté que nous évoquions tout à l'heure, parce que justement, à sa manière aussi, l'humanisme qui nie la vérité prétend que lui est la vérité. Et par conséquent, il ne veut pas laisser la liberté aux autres systèmes de pensée. Or, le christianisme agit d'une manière tout à fait différente, dit Francis Schaeffer. Le christianisme non seulement permet, mais recommande la liberté dans le domaine de la réflexion, dans le domaine de la pensée. Parce que justement, étant la vérité, il ne craint pas la liberté des autres. Il n'a rien à craindre de la confrontation avec les autres. Et Francis Schaeffer met en garde en disant « Le but de l'humanisme, c'est de supprimer la liberté d'expression » et la liberté religieuse. Ça, il faut que les chrétiens le sachent, dit-il. Il y a une filiation qu'il démontre entre l'humanisme et le totalitarisme, qui est un code imposé par une petite élite. Et alors, dit Francis Schaeffer, reprenant d'ailleurs en cela ce que aussi dit Jacques Ellul, il y a entre gouvernant et gouverné une duplicité, une complicité, n'est-ce pas, qui fait que, somme toute, toutes les corruptions sont institutionnalisées et même légitimées. On écrivait ça, évidemment, dans les années 65-70. Bon, ben, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui hein? Il y a donc ici un doute, un soupçon systématique contre tout ce qui se prétend liberté, vérité plus exactement, et tout ce qui va à l'encontre des valeurs, entre guillemets, prônées par la petite coterie qui modèle la pensée de l'essentiel du monde occidental. Et il ne fait pas bon, justement, dans notre temps, affirmer que on connaît la vérité, que l'on a la vérité. Voilà. Ensuite, l'humanisme reprend évidemment les critères de la grande tradition humaniste du XVIe déjà. L'homme est la mesure de toute chose. Et on retrouve la même chose chez les théologiens libéraux. L'humanisme a touché également le christianisme au travers du libéralisme. Alors là, Francis Schaeffer se lance dans des longues démonstrations, fort intéressantes au demeurant, sur les origines de cette dérive qu'il fait remonter à Thomas d'Aquin, en passant par la Renaissance, bloquée un instant par la Réforme, désemparée par la Réforme, qui elle ramène à la Bible, puis qui reprend de plus belle quand justement la Réforme s'essouffle au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous avons donc l'explosion dite des Lumières, de l'humanisme triomphant, qui ensuite infecte le corps même du christianisme au XIXe, pour aboutir au désastre du XXe. Voilà en gros comment Francis Schaeffer résume l'histoire moderne du monde occidental. Le libéralisme théologique, dit-il, n'est qu'un humanisme déguisé. Et pour les théologiens libéraux, la Bible n'est que la somme des aspirations humaines en ce qui concerne Dieu, et pas du tout, évidemment, le reflet de la vérité. En cela, ils sont parfaitement acceptables, parfaitement assimilables par, justement, la société ambiante, d'où le succès, somme toute, de Vatican II. Et là, donc, Francis Schaeffer analyse Vatican II comme un désastre pour l'Église catholique. Un désastre dans la mesure où l'œcuménisme a eu des effets extrêmement néfastes sur l'Église catholique elle-même. Car l'Église catholique, qui était basée sur des certitudes épaisses, je peux dire ses dogmes, n'est-ce pas, qui faisaient que la masse de ses fidèles, qui n'a jamais été convertie, qui ne connaissait pas le Seigneur dans une expérience personnelle, adhérait à un système auquel elle faisait plus ou moins confiance d'une manière aveugle, parce que le système les prenait en charge du berceau à la tombe pour leur salut. Il suffisait de se laisser conduire, en quelque sorte, au travers des grands événements de la vie, on était à peu près sûr de son salut, ne serait-ce que par le biais du purgatoire. Ce n'était pas très agréable. Mais enfin, on était à peu près sûr de s'en sortir. Et voilà que une partie du clergé catholique s'est mise à douter, sous l'influence de l'humanisme athée, ou déiste, agnostique, disons. Et voilà qu'il a découvert que du côté protestant, non seulement on avait les mêmes doutes, mais on avait également mis au point tout un système qui permettait de rationaliser cette situation et de donner l'image d'un christianisme raisonnable. Et l'aile catholique qui était ouverte à ce genre de spéculation-là a été l'aile marchande de l'œcuménisme en milieu catholique. Or, à l'inverse, l'Église catholique s'est défiée de l'aile évangélique du protestantisme, qui elle était restée fidèle à l'inspiration biblique, qui le lui rendait bien d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et là, Francis Schaeffer déplore le fait que les évangéliques n'aient pas cru devoir entrer dans le dialogue œcuménique. Il dit « Les catholiques se sont trompés d'interlocuteur. » Et ça a été leur perte. Ils ont, pour dire les choses autrement, ils ont permis aux protestants libéraux d'inoculer leur venin et leur poison, et l'Église catholique est en train d'en périr. Tandis que si elle avait choisi, dit Francis Schaeffer, de dialoguer avec les évangéliques, peut-être les choses auraient-elles été autres, et qu'il aurait pu y avoir peut-être une véritable régénération au sein de l'Église catholique. Bon, les évangéliques n'ont pas aidé, c'est vrai. Ils étaient extrêmement fermés, extrêmement ouverts. Et puis, il y avait une autre raison pour laquelle l'Église catholique agit de cette manière-là. C'est son allergie atavique et viscérale à la Bible. Et au contraire, le catholicisme voyait dans l'aile évangélique du protestantisme un ennemi à abattre. Et abattre, ça voulait dire essentiellement saper pour elle aussi l'autorité de la Bible. Détruire la Bible pour pouvoir détruire le monde évangélique. Elle ne se rendait pas compte qu'en faisant cela, elle sciait la branche sur laquelle elle était assise et qu'elle s'auto-détruisait. Voyez-vous la finesse de l'analyse, hein. Je crois que là, c'est quand même assez remarquable. Alors, il y a des tentatives pour exprimer, en langage moderne, en langage accessible à l'homme moderne, les vérités bibliques, les vérités de la foi chrétienne, disons. Alors, on prétend que la pensée de Dieu échappe à l'homme, parce que finalement, Dieu ne parle pas. Ça, dit Francis Schaeffer, c'est l'erreur de base des théologiens libéraux, catholiques et protestants. Si Dieu ne parle pas, la Bible n'est pas parole de Dieu. Et si la Bible n'est pas parole de Dieu, on ne peut pas connaître la vérité de Dieu, en tout cas pas par la Bible. Il nie, par conséquent, dit Francis Schaeffer, la nature propositionnelle de la révélation. Il nie toute possibilité d'intervention de Dieu dans l'histoire. Par conséquent, que reste-t-il ? Eh bien, oui, un vague humanisme déiste. Et on se retrouve au XVIIIe siècle, avec les déistes qui pensaient que Dieu avait réglé le monde comme une mécanique de façon à ce qu'il puisse fonctionner sans lui. L'homme n'est donc rien d'autre qu'un rouage de la machine cosmique. Il y a un caractère fini de l'univers qui implique que le Créateur est inconnaissable et que son intervention dans l'univers est impossible. Alors, là, on est évidemment dans une toute autre réalité que la révélation biblique. C'est vrai qu'il y a entre Dieu et l'homme un point commun. Le fait qu'il est différencié de l'univers, c'est que l'un et l'autre sont des êtres personnels. Ça, c'est une chose que les théologiens modernistes et libéraux ont gardé quand même. Et par conséquent, l'homme reste image de Dieu. Adam et Ève, si tant est, enfin, ce qu'on appelle Adam et Ève, qui pour eux ne correspond évidemment qu'à un mythe, ont la possibilité d'influencer le cours de l'histoire, et c'est eux qui donnent un sens au monde, si tant est que le monde en est un. Alors, dit Francis Schaeffer, ça c'est le poison mortel, dont non seulement le christianisme, mais la société occidentale tout entière est en train de mourir. Et Francis Schaeffer montre que les choix qui sont faits sur le plan des idées, sur le plan des comportements, sur le plan des modes de vie, à chaque génération retentissent sur les générations ultérieures. Et il reprend justement le premier couple, Adam et Ève, qui font le choix de la révolte contre Dieu. Et ainsi, il détermine la marche du monde pour toutes les générations qui viendront ensuite. Mais dit Francis Schaeffer, c'est pas seulement le premier couple, la première génération qui fait cela, mais les choix que chaque génération fait vont déterminer les générations qui vont suivre. Et dit Francis Schaeffer, notre génération joue un rôle clé dans l'avenir du monde. Car selon les options qui vont être prises dans ce siècle, dit-il, c'est-à-dire le 20e, eh bien, c'est la vie ou c'est la mort. Pour l'humanité. Et à la fin de sa vie, évidemment, il conclut que il y a tout lieu de croire que le choix a été fait dans le mauvais sens. Mais, évidemment, Francis Schaeffer reste chrétien, et s'il est très réaliste, on pourrait même dire pessimiste, il a la vision de l'intervention de Dieu. Certes, l'homme est un être déchu, et notamment qui traverse une crise d'identité terrible. Et dit l'homme moderne est un homme déboussolé, désemparé, parce qu'il traverse une crise d'identité. Et la question qui se pose à lui, c'est la question existentielle, fondamentale, c'est qui suis-je ? Et finalement, la philosophie moderne lui répond de cette manière. tu es un animal un peu plus perfectionné que les autres, produit d'une évolution qui a commencé avec l'amibe et puis qui s'est ensuite propagée selon le schéma classique darwinien, revu et corrigé aujourd'hui, mais enfin grosso modo le même. Et puis, quand on a dit un animal, on n'a rien dit finalement, car qu'est-ce qu'un animal ? C'est un super ordinateur. C'est une machine plus sophistiquée que les autres, mais rien qu'une machine. Autrement dit, rien. Et finalement, quand l'homme moderne pose la question « Qui suis-je ?», le monde moderne lui répond « Tu n'es rien. Tu es un zéro. » Finalement, ce qu'avait déjà dit l'Ecclésiaste, un ével. Et forcément, cette pensée de n'être rien, de n'avoir aucune valeur, aucun sens, d'être, comme le disait Monod, le produit du hasard et de la nécessité, eh bien, est absolument angoissant. Et c'est l'angoisse de Pascal avant sa découverte, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Alors je sais bien que Monod dira, il faut que l'homme soit fort et qu'il accepte d'être seul dans l'univers, etc. Bon, c'est bien gentil, mais enfin tout le monde n'est pas Monod. D'ailleurs, Monod, faudrait voir aussi ce qu'il y a au fond des choses, mais enfin passons. Alors, pour échapper à son vertige, eh bien l'homme moderne se lance à corps perdu dans le divertissement, au sens pascalien du terme. S'étourdir par le plaisir, par toutes sortes de choses, c'est pas, et puis échapper justement à sa condition de désespérer finalement, parce que c'est ça. Or, il dit, face à cette situation, où il n'y a pas d'autre réponse que celle du divertissement, il dit le chrétien, le christianisme a la seule réponse, l'unique. Et que nous dit le christianisme ? Oui, nous sommes des êtres déchus, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dépourvus de valeur. Et l'homme, dans sa déchéance même, reste l'image de Dieu. Et là, si l'homme reprend conscience de cela, dit Francis Schaeffer, tout redevient possible. Il faut se débarrasser aussi d'un autre héritage, nous dit Francis Schaeffer, l'héritage du romantisme. C'est-à-dire la recherche des sentiments, des émotions, des sensations, qui remplace la pensée, qui fait qu'on ne raisonne plus rationnellement. Et Francis Schaeffer aussi, dans un livre remarquable qui s'appelle « Démission de la raison », on l'a en français, je crois, celui-là, je crois qu'il existe en français, montre cet abandon, justement, de la raison sous l'influence du romantisme du XIXe siècle. Alors, on adopte, à partir de sentiments, d'émotions, des comportements et des actes qui sont autodestructeurs. Et il faut revenir donc à une raison saine. Une raison qui peut et qui doit être, et qui ne peut renaître que si elle est éclairée par la révélation de Dieu, autrement dit par la Bible. Car, dit-il, l'homme est le produit de ses pensées. Et au niveau du christianisme, dit-il, il faut que le christianisme redevienne, comment dirais-je, crédible, et pour cela, qu'il retrouve ses bases, ses propres certitudes, ses propres convictions. Il faut pour cela, à la fois, un nouvel effort de dogmatisation, mot abominable dans notre temps, mais un équilibre entre cette dogmatisation, le piétisme, c'est-à-dire une vie de piété profonde, et puis aussi un engagement socio-culturel auquel il était très attaché. Il faut, dit-il, et c'était sa philosophie, que la suprématie, la souveraineté, l'autorité de Jésus-Christ se manifestent dans tous les domaines de la vie du chrétien. Et pas simplement qu'il soit ce que justement l'humanisme moderne voudrait qu'il devienne. Pour reprendre l'expression de Jacques Maury, le chrétien dans la sacristie. Vous pouvez être chrétien dans vos quatre murs, dans les quatre murs de vos églises, et encore, tout juste. Mais quand vous sortez de vos églises, vous cessez d'être chrétien. Vous cessez de raisonner en chrétien. Vous cessez de vous comporter en chrétien. Pour devenir des hommes comme tout le monde. Vous êtes dans une société laïque et vous devez, en dehors de vos églises, vous laïciser. Eh bien non, dit Francis Schaeffer, jamais. Nous restons chrétiens 24 heures sur 24. Nous faisons entrer, comment dirais-je, l'esprit de l'Évangile dans tous les domaines de la société humaine dans lesquels nous sommes engagés. Dans le monde politique, dans le monde de la culture, dans le monde du travail, etc., etc., etc. Voilà l'endroit où se situe le combat, dit-il. Mais évidemment, ça implique une vie chrétienne équilibrée. Francis Schaeffer lui-même s'était forcé évidemment d'avoir cet équilibre dans sa vie, équilibre aussi, et c'était son dernier livre, Le Grand Désastre Évangélique, n'est-ce pas, lequel il affirmait que il fallait s'attendre, les chrétiens devaient s'armer pour une confrontation. Une confrontation avec le monde et une confrontation avec les églises apostates. Cette confrontation, il n'était pas possible d'y échapper. À un moment où justement beaucoup de chrétiens espéraient et pensaient pouvoir échapper à la confrontation. On était dans une, comment dirais-je, dans une mouvance non pas de confrontation mais de conciliation. C'était la marque de ce siècle pour lui. L'œcuménisme en était un exemple. Essayer de concilier, d'harmoniser une vérité consensuelle en quelque sorte sur un plus petit commun dénominateur. Or, disait Francis Schaeffer, cette manière de concevoir l'Évangile n'est pas tenable. C'est l'autodestruction. L'Évangile, avec un monde moderne qui est de plus en plus hostile, conduit tout droit à une confrontation. Et cette confrontation, les chrétiens qui veulent être fidèles à l'Évangile ne pourront pas y échapper. Cette confrontation, ils devront la mener sans faiblesse. Ce combat, ils devront le mener sans faiblesse. Et lui-même l'a fait. Il était un redoutable débatteur. Il a débattu à la télévision, etc. Bon, c'est pas sans raison que Ronald Reagan disait de lui que c'était le plus grand penseur chrétien de cette génération, de ce siècle, c'est pas. Mais, disait-il, cette confrontation devra toujours se faire dans l'amour. Et lui-même s'est toujours attaché à garder ces deux pôles qui peuvent sembler antagonistes et contraires. La confrontation est inévitable. Et si on ne veut pas de la confrontation dans l'amour, ou si on a la confrontation sans l'amour, ou l'amour sans la confrontation, alors le grand désastre évangélique aura lieu. Mais par contre, si le peuple chrétien se ressaisit et s'il est capable de mener cette confrontation, alors disait-il, tout sera possible. Bon, voilà très rapidement, évidemment, résumé trop rapidement, schématiquement, la pensée de Francis Schaeffer, mais ce sont les lignes de force, les points essentiels justement de sa réflexion. Alors maintenant, nous allons aborder un autre chapitre tout à fait important, le protestantisme non charismatique en Europe. Tout d'abord en Allemagne. Jusqu'en 1933, les rapports entre le protestantisme et les pouvoirs publics en Allemagne sont cordiaux. Bon, le protestantisme allemand a été marqué plus qu'aucun autre par le libéralisme, mais l'église luthérienne reste église d'État. Elle porte le nom d'église évangélique en Allemagne, ne pas confondre avec le mouvement évangélique dans son sens anglo-saxon, qui est celui que nous utilisons nous quand nous parlons de monde évangélique. Il faut savoir que dans les pays à forte prédominance luthérienne, comme l'Allemagne et les pays scandinaves, Église évangélique est synonyme d'église luthérienne. On a des petites surprises, parfois on a des luthériens allemands qui viennent en vacances l'été, qui viennent chez nous parce qu'on est une église évangélique, qui s'attendent à trouver un culte luthérien chez nous. Encore dernièrement, on a eu ce phénomène-là. Bon, alors ça, il faut le savoir. Donc, église évangélique qui, bien qu'elle soit profondément marquée par le libéralisme, a encore une certaine audience parce que, un peu comme l'église catholique, l'église luthérienne est très liturgique. Il y a une part de mystère qui fait qu'il y a un certain piétisme qui contrebalance justement le libéralisme. Ça aussi, Francis Schaeffer l'avait bien analysé. Il disait, pour être libéral, une église doit être costaude au point de vue nombre, au point de vue influence, au point de vue liturgie, au point de vue système, quoi. Bon, c'était le cas de l'église luthérienne dans cette période-là. Dans le sud de l'Allemagne, l'église catholique est prépondérante. Et elle est aussi église d'État. Ça veut dire qu'elle est rémunérée par l'État, concordataire. Et les citoyens payent un impôt ecclésiastique qui va évidemment aux institutions de l'église, sauf ceux qui, détachés de toute église, refusent de payer cet impôt ecclésiastique. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la règle en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Suisse aussi d'ailleurs. Sur votre feuille d'impôt, vous avez impôt ecclésiastique. Si vous dites que vous êtes membre de telle église, alors vous payez automatiquement l'impôt ecclésiastique. Si vous marquez que vous n'êtes rattaché à aucune église, vous êtes dispensé de l'impôt ecclésiastique. C'est le système, c'est comme ça. Bien. À partir de 1933, évidemment, un chapitre nouveau né dans l'histoire de l'Allemagne, vous savez, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le nazisme. Et là, dans la mouvance de l'hitlérisme, apparaît un clivage dans l'église luthérienne allemande. Il y a toute une partie de l'église luthérienne qui va se rallier à Hitler et qui va prendre le nom de chrétiens allemands. Il va y avoir une désémitisation de la Bible, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs à ce que nous voyons aujourd'hui encore dans, je sais pas, les chrétiens arabes ou les chrétiens néo-zélandais. L'église anglicane de Nouvelle-Zélande est la première église qui a supprimé dans ses Bibles et dans ses livres de prière le mot Jérusalem, Sion, Israël, etc. Et qui, chaque fois qu'on retrouve ces mots, a remplacé ça par le peuple de Dieu. C'est pas... Bon, ils ne font que reprendre ce que les chrétiens allemands fidèles à Hitler avaient fait. Exactement ce qui s'est produit à partir des années 33. N'est-ce pas ? Contre cette dérive, il va y avoir une réaction d'une minorité qui va prendre le nom d'église confessante, qui, elle, entend rester fidèle à Jésus-Christ et à l'église véritablement fidèle. À la tête de l'église confessante, on va trouver des grands noms. Karl Barth, théologien qui va marquer le siècle, nous aurons l'occasion d'en reparler sur un autre plan, et qui est destitué par les autorités de l'église officielle pour avoir pris position contre justement la dérive à laquelle l'église d'Allemagne s'était livrée. On rencontre ensuite, pendant la guerre, alors le pasteur Martin Niemöller, qui lui sera emprisonné par les nazis pour avoir fait de la résistance. Et puis enfin, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, théologien de grande classe également, qui, au début de la guerre, s'enfuit aux États-Unis pour échapper justement à l'hitlérisme et continue là-bas à envoyer des lettres pour stimuler la résistance contre Hitler, puis qui finalement pense que sa place, c'est auprès de son peuple, et qui revient, qui quitte les États-Unis et qui revient en Allemagne, où il va donc animer ce mouvement de résistance. Il l'anime tellement que finalement il arrive à la conclusion que Hitler est un monstre, un antichrist, qu'il convient d'éliminer par tous les moyens, y compris par la force. Et Dietrich Bonhoeffer participe au complot du 24 juillet 1944, un des nombreux complots qui vise à l'élimination physique d'Hitler. qui sera le plus sérieux d'ailleurs, et qui a étrangement a échoué, puisque vous le savez, le colonel von Stauffenberg, qui était chargé de parler conjuré, donc à la tête desquels se trouvait le maréchal Erwin Rommel, d'éliminer Hitler en posant une bombe dans son bunker. Il était membre de l'état-major personnel d'Hitler. Il avait donc accès au sanctuaire des sanctuaires, qui était le bunker personnel d'Hitler, où tous les jours il tenait ses conférences d'état-major général. Et Otto Stauffenberg avait caché une bombe dans sa serviette. Et bon, cette bombe, il l'avait posée à côté d'un pilier. Puis ensuite, à l'heure où elle devait exploser, il s'était excusé en disant qu'il avait un rendez-vous urgent, il s'était éclipsé. C'est alors qu'un des généraux d'Hitler, qui était en train de faire une démonstration sur carte, s'est heurté les pieds dans cette serviette et qui le gênait, il l'a mis derrière le pilier. Et quand elle a explosé, eh bien, Hitler a été miraculeusement protégé par ce pilier. N'est-ce pas? Protection diabolique, manifestement, ben, n'est-ce pas? Bon, il a été commotionné fortement, mais il en a réchappé. Et donc, les conjurés ont été arrêtés. Rommel a reçu l'ordre de se suicider. Hitler n'a pas osé le mettre à mort, étant donné qu'il était très populaire en Allemagne, bien sûr. Mais donc, les principaux conjurés ont été mis à mort dans des conditions absolument épouvantables, pendus à des crocs de boucher. Et parmi ceux qui ont été arrêtés, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a été mis à mort de cette manière-là. Bon, il a écrit des lettres de prison, c'est pas, dans lesquelles il livre en quelque sorte son testament spirituel. Bon, engagement évidemment controversé, discuté, etc. Bon, mais enfin, qu'il a payé jusqu'au bout de sa vie. Donc là, on peut penser ce qu'on voudra de l'engagement de Dietrich Bonhoeffer, mais enfin, voilà le dilemme auquel étaient confrontés les chrétiens qui voulaient rester fidèles à Jésus-Christ pendant cette période terrible que fut la période hitlérienne, donc en Allemagne. Du côté catholique, il y a aussi des résistances, notamment l'évêque Dibelius, qui ensuite résistera aux communistes après la guerre, quand la partie est de l'Allemagne, vous le savez, tombera entre les mains des communistes. Bon, cette période dramatique, cette période qui va jusqu'à 1933, jusqu'à la guerre, disons, grosso modo, 1939, si vous voulez, est une période aussi de grande réflexion théologique en Allemagne. Nous avons évoqué, bon, Dietrich Bonhoeffer, qui a été aussi un théologien, nous allons en reparler, mais le principal d'entre eux, évidemment, est Karl Barth. Karl Barth, né en 1886, qui commence par être moderniste et libéraux, comme beaucoup de théologiens de cette période-là en Allemagne, et puis qui se rend compte que le libéralisme est en train de détruire la foi, et que là, il faut bloquer justement cette évolution-là. Et il se rend compte que l'homme a besoin d'une révélation, que Dieu a donné cette révélation en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est incarné. Et toute la théologie de Karl Barth est une théologie christocentrique, dans laquelle Jésus-Christ est véritablement le pivot. Somme toute, il déplace l'objet de la révélation. La révélation n'est pas la Bible, mais la révélation est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la révélation de Dieu. Et là, donc, il y a automatiquement un retour d'une une certaine piété, à une certaine foi. Mais comment peut connaître Jésus-Christ? Comment connaître celui qui est la révélation de Dieu? Et là, Karl Barth se rend compte qu'on ne peut pas faire l'économie de la Bible. Il est obligé de revenir à la Bible, car on ne peut connaître Jésus-Christ que par la Bible, somme toute. Alors, on retrouve le même problème que celui des confrontations entre piétistes et libéraux. Oui, mais si la Bible est bourrée d'erreurs, si on ne peut pas être sûr de ce qu'elle affirme, ben oui, c'est ça le problème. Alors là, justement, Karl Barth fait appel à Hegel et à la pensée dialectique. Et alors il croit pouvoir trouver dans la Bible elle-même des traces de cette démarche dialectique qui est fort en vogue à partir du XIXe siècle, qu'on retrouve dans le marxisme, n'est-ce pas ? Et cette pensée dialectique, dit-il, se trouve dans cette affirmation biblique que Dieu est celui qui se cache et qui se révèle en même temps. Il a trouvé le pivot, la clé, justement. Et il n'est donc pas étonnant que la Bible soit bourrée de contradictions, voire même d'erreurs. Au travers de ces erreurs même, Dieu se révèle et se cache. Voyez-vous, c'est très habile, c'est très subtil comme pensée. Or, justement, le but du croyant, c'est de trouver son équilibre entre ces contradictions apparentes. Karl Barth, donc, nous l'avons vu, est chassé d'Allemagne à la suite de l'avènement d'Hitler. Il se réfugie, il était professeur à l'université de théologie de Bonn. Puis il se rend à Bâle en Suisse et il va s'installer à Bâle donc, pour le restant de ses jours, jusqu'en 1964, date de sa mort, où il rencontre un autre théologien très de grand renom de cette période-là, Brunner, qui lui meurt en 1968. Et c'est là qu'il il rompra finalement avec Brunner quelques années plus tard. Mais là, il élabore justement sa doctrine de la révélation, de l'inspiration de l'Écriture. Pour lui, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a l'intervention du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit souffle, quand le Saint-Esprit vient, la Bible devient parole de Dieu. Voilà le grand mot de Karl Barth. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle devient la parole de Dieu sous l'inspiration et sous l'influence du Saint-Esprit. Ma situation, etc. Peu importe qu'il soit vérité ou pas, finalement, dit Karl Barth. Peu importe qu'il contienne des erreurs ou non. L'essentiel, c'est que dans ce moment-là, hic et nunc, ce texte est pour moi parole de Dieu aujourd'hui. Peut-être que demain, il ne le sera plus du tout. Peu importe. Aujourd'hui, il est parole de Dieu pour moi. Et telle est la base, justement, de la dogmatique de Karl Barth, qu'il écrit, d'ailleurs, dans une... c'est une véritable somme, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs volumes de grands... comme les Gros Larousse, quoi. Pour ingurgiter ça, il faut avoir de l'appétit. N'est-ce pas ? D'ailleurs, quelqu'un disait de lui, ce qui se conçoit bien, vous savez, parodiant le texte fameux de... C'est Malherbe qui a dit ça, je crois. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce n'était pas tout à fait le cas de Karl Barth. Et on disait de lui, ce qui se conçoit bien s'énonce en allemand et les mots pour le dire viennent gutturalement. Et c'est Karl Barth lui-même qui avait une certaine modestie malgré tout. Il disait qu'il ne comprenait bien sa propre théologie que quand il l'entendait expliqué par Pierre Maury, le père de Jacques Maury, l'ancien président de la Fédération protestante, qui était un grand barthien. Alors, ça montre un petit peu les limites de cette théologie. Néanmoins, après la guerre, la théologie de Karl Barth va avoir une énorme influence dans la plupart des églises historiques. Parce que les églises historiques, ébranlées par la guerre qui plus est, sont dans le désarroi. Le conflit moderniste, finalement libéral, a laissé toute une génération sur sa faim. Et soudain, arrive un théologien qui dépasse le conflit entre orthodoxes et libéraux, qui prétend même les réconcilier, qui permet de se recentrer sur Jésus-Christ, sur l'essentiel du christianisme. C'est vrai, il faut lui rendre cette justice. Karl Barth a recentré toute une génération de jeunes théologiens, c'est-à-dire ceux d'après-guerre, les jeunes pasteurs d'après-guerre, sur ce qui est quand même l'essentiel de la révélation, Jésus-Christ, qui a donné de la Bible une explication et de l'inspiration qui était plausible, en tout cas qui était meilleure que celle du vieux libéralisme époumonné, essoufflé, n'est-ce pas ? Et qui permet donc un certain renouveau de foi dans les années d'après-guerre, on peut dire jusqu'à un certain point. Malheureusement, il y a des points très faibles, évidemment, dans la théologie de Karl Barth, notamment justement cette idée que on ne peut pas avoir, finalement, on ne peut pas dogmatiser. Et finalement, le barthisme est à la fois donc dans l'esprit du temps, quand même, comme disait Schaeffer, qui était un farouchement anti-barthien, n'est-ce pas ? Il a eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer directement Karl Barth, vous vous souvenez, la dernière fois, on en a parlé, il s'est opposé à lui, il a voulu, par loyauté, aller discuter avec lui avant d'attaquer sa théologie, n'est-ce pas ? Mais il soulignait le fait que, justement, on nie aussi la nature propositionnelle de la Bible, donc il n'y a pas de dogmatisation possible, même si Barth a écrit une dogmatique. Et notamment, un des points faibles de la théologie de Barth, c'est l'universalisme quant au salut. Tous les hommes sont sauvés par le sacrifice de Jésus. L'évangélisation, c'est quoi ? C'est simplement de faire part aux hommes de cette bonne nouvelle qu'ils sont sauvés pour qu'ils viennent se réjouir avec nous de savoir qu'ils sont sauvés. Et quand on avait demandé en son temps à Jacques Maury, est-ce que Hitler est sauvé ? Est-ce que Staline est sauvé ? Après un temps d'hésitation, il avait répondu oui. Et alors, si le baptisme a été dans un premier temps une bouée de sauvetage pour bien des jeunes en dérive, il s'est révélé à long terme négatif au niveau du peuple. Car il a supprimé justement la peur de l'enfer. Et s'il n'y a plus de peur de l'enfer ? Qu'est-ce qui me retient ? Qu'est-ce qui m'empêche de pécher ? Puisque de toute façon je suis sauvé. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller écouter des sermons ennuyeux tous les dimanches matin alors que j'ai une voiture, que je peux aller me promener, je peux aller à la mer, etc. Et l'après-guerre a vu, après un petit renouveau, les églises fondre comme beurre au soleil, notamment justement au niveau des jeunes. C'était quand même l'influence du baptisme. Voilà. Bien, je vais vous lire un écrit de Barth, justement sur la révélation, où il expose sa théorie de la révélation. La connaissance de la révélation peut et doit donc signifier la connaissance du Dieu lointain, étranger, saint. Elle interdit cette vaine et dangereuse imagination que l'homme pourrait, dans cette rencontre avec Dieu, entrer en lice et collaborer comme s'il était le partenaire de Dieu, pourvu d'une capacité de Dieu, naturellement disposée à Dieu, comme s'il avait une continuité entre ce que l'homme connaît et fait naturellement et ce que Dieu lui donne de connaître et lui commande de faire. La connaissance de la révélation, c'est toujours la reconnaissance du miracle de cette rencontre, à savoir de la grâce, de la miséricorde, de l'abaissement de Dieu. Mais justement, en disant ceci, nous affirmons que cette connaissance est celle d'une relation réelle entre Dieu et l'homme, d'une relation qui se fonde la même, et là seulement, où elle peut acquérir force et stabilité, c'est-à-dire qui ne se fonde pas dans la vérité équivoque de notre nature humaine, de notre raison, et pas davantage de notre amour, mais bien dans la libre décision du Dieu éternel et immuable. Donc là, c'est vraiment l'homme, on est vraiment pousse à fond, si vous voulez, la doctrine protestante du salut par grâce. L'homme est incapable de quoi que ce soit pour son salut, même de croire. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de croire pour être sauvé, nous l'avons vu. Tout vient de Dieu, toute l'initiative vient de Dieu. Ce serait oublier cette action, cette attaque de Dieu, que de considérer cette relation comme un problème. La considérer ainsi, c'est à vrai dire la nier. La connaissance de la révélation n'est pas la connaissance d'un Dieu abstrait en face d'un homme abstrait, mais la connaissance du Dieu concret qui a cherché l'homme, en même temps que la connaissance de l'homme concret qui a été trouvé par Dieu. Donc le chrétien, c'est celui qui a été trouvé par Dieu, c'est tout. Il est connaissance de Dieu et de l'homme, concrètement, dans l'événement de l'initiative première et absolue de Dieu. Telle est la majesté de Dieu, que là où la différence qui sépare l'homme de lui se révèle dans son infinitude, là précisément se révèle ce que cet homme appartient à Dieu, non parce qu'il est capable de lui, non parce qu'il l'aurait cherché et trouvé, mais uniquement parce que telle est la volonté gracieuse de Dieu. Alors, si vous voulez, c'est aussi la conséquence de l'idée calvinienne de la double prédestination, qu'avec raison, évidemment, Barth nie, n'est-ce pas ? Mais comme il veut garder quand même l'idée de la grâce absolue de Dieu, de la souveraineté absolue de Dieu, il étend la prédestination à tous les hommes, indistinctement. La prédestination au salut à tous les hommes. Tous les hommes sont prédestinés à être sauvés. Comme ça, on échappe évidemment à cette épouvantable pensée que Dieu peut avoir déterminé d'une manière absolument gratuite un tas d'hommes à l'enfer, quoi. Bon, voilà, ça c'est Karl Barth. C'est Karl Barth. Bon, Karl Barth, dont on prend conscience quand même après la guerre des insuffisances. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas chez Karl Barth. Et parmi eux, donc, il y a un théologien aussi de quelque renom. Citons parmi les disciples de Barth aussi un autre théologien français qui a prouvé d'une manière définitive l'existence historique de Jésus. Mais il faut citer Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, né en 1884, qui crée ce qu'on appelle fondateur de la Formgeschichte, histoire des formes, en allemand. Et Bultmann commence par être un disciple de Barth, puis il se sépare de lui. Et il refuse l'idée que du subjectivisme barthien, finalement. Comme quoi le Saint-Esprit fait devenir parole de Dieu tel ou tel texte. Pour lui, les textes bibliques doivent être étudiés dans leur forme littéraire. Et il faut faire une histoire des formes. D'où le nom de Formgeschichte, histoire des formes. On trouve la même chose d'ailleurs dans les milieux laïcs. Il applique, comme le font les structuralistes dans les années 70, il applique, n'est-ce pas, des méthodes d'exégèse dans des textes non chrétiens, disons, il les applique à la Bible. Et voilà la grande théorie de base de Bultmann, que les écrits bibliques ne sont pas des comptes rendus fidèles des événements, mais l'expression de la foi des premiers chrétiens. Alors, on arrive à une aberration absolument terrible, dont on souffre encore aujourd'hui, dans bien des milieux. C'est l'idée que les évangiles n'ont pas été écrits par, évidemment, les évangélistes, mais ils ont été écrits des décennies après les événements qu'ils rapportent. Par des gens qui avaient une tradition orale plus ou moins fidèle, et qui avaient réinterprété des événements historiques ou non, d'ailleurs, souvent légendaires. Et mythique. Parce que pour Bultmann, tous les récits de miracles sont mythiques, parce que justement, il est dans cette conception humaniste que dénonçait Schaeffer, que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que Dieu a créé le monde d'une manière mécanique et que rien ne peut interférer dans le mécanisme du monde. Et le monde maintenant fonctionne sans Dieu. Donc il ne peut pas y avoir de miracle. Le miracle n'est pas a priori une impossibilité. Donc, s'il y a des récits de miracles dans l'Évangile ou dans la Bible, il ne peut s'agir que de mythes. Mythe, la naissance virginale de Jésus. Mythe, tous les miracles de Jésus. Mythe, la résurrection, l'ascension, la descente du Saint-Esprit, etc. D'où viennent ces mythes? De la foi naïve des communautés primitives, qui ont été d'abord désemparés par la mort de Jésus, puis qui ensuite, n'est-ce pas, a tellement été marqué par la personnalité extraordinaire de Jésus, qu'ils se sont imaginés que Jésus était ressuscité. Certains même ont eu des hallucinations, ont cru l'avoir vu, et c'est ainsi qu'est né le mythe du christianisme. Alors c'est quand même un petit peu aberrant de voir que ce gars-là, c'était un professeur de théologie. Ça, des adversaires de l'Évangile auraient pu dire ça et le dire beaucoup mieux que lui encore. Et alors, naît à partir de ce moment-là ce qu'il appelle le kérigme, du mot grec kérigma, proclamation. On prêche Jésus ressuscité, mort et ressuscité. Et puis, au fil du temps, le kérigme s'enrichit de toutes sortes de mythes, de toutes sortes de traditions, etc. Et puis, au bout d'un temps, ce kérigme est mis par écrit. C'est nos évangiles. Bon, je passe sur les détails, la fameuse source quelque que Pierre David a étudiée dans ses écrits, etc. D'où sont nés les synoptiques, etc. Bon, enfin, tout ça, c'est du bultmannisme à haute dose. Et finalement, on arrive à cette idée que les récits de la Bible et des évangiles en particulier ne sont pas historiques du tout. Si, ils nous permettent de savoir l'histoire des communautés. Par exemple, on aura les communautés mathéennes qui vont voir dans Jésus un nouveau Moïse, parce que c'était des communautés juives. Par contre, les communautés lucaniennes verront dans Jésus un nouvel Élie, parce qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils insistent sur l'aspect prophétique de Jésus. Les communautés johanniques, le milieu johannique, comme ils l'appellent, est un milieu gnostique, marqué par l'hellénisme, etc. Donc, toutes sortes d'élucubrations dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses. Mais enfin, bon, c'était sa pensée. Et voilà. Donc ici, on ne peut pas connaître l'histoire de Jésus lui-même. Le Jésus de l'histoire est inconnu. On ne peut pratiquement rien connaître du Jésus de l'histoire. On ne connaît que le Jésus de la foi. Et Bultmann fait la différence entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Alors le Jésus de la foi, il est un mythe. Et comme on ne peut pas connaître le Jésus de l'histoire, finalement, tout le christianisme est un mythe. Et ça, Bultmann l'assume. Il dit oui, c'est exact. Et seulement, il faut avoir le courage de le dire. Parce que le mythe, ça fait partie de l'enfance de l'humanité. Comme le conte de fées pour les enfants, il en faut, le Père Noël, tout enfant a besoin de croire au Père Noël. Puis vient un âge où l'enfant prend conscience que le Père Noël n'existe pas. Eh bien maintenant, l'humanité est devenue adulte, dit Bultmann. Et par conséquent, elle ne supporte plus le mythe. Elle a compris que l'Évangile était un mythe. Et continuer à prêcher un Jésus mythique à une humanité qui est devenue adulte, c'est faire fausse route. On ne peut pas évangéliser de cette manière-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut démythologiser l'Évangile et présenter un Jésus rationnel, un Jésus en quelque sorte qui est accessible, qui est humain, qui est les philosophies, enfin les choses de base, finalement quelque chose de très vague. Un nouveau kérigme. Il est à la recherche d'un nouveau kérigme. Je me souviens, le professeur Fusser, quand il avait participé la première fois à un congrès de théologie en Europe, et il avait entendu un exposé magnifique où un théologien bultmannien avait expliqué qu'il n'y avait pas une parole de Jésus dans l'Évangile, pas une seule qui était authentique. S'il y en avait une seule qui était. Alors Fusser, qui était un juif, était un peu estomaqué d'entendre des chrétiens parler comme ça. Et à la fin, il pose une question, il dit, vous avez dit, professeur, tout à l'heure, qu'il y avait une seule parole de Jésus qui était juste, j'aimerais savoir laquelle. Ah, je ne m'en souviens plus, dit l'autre. Ah, il dit, il y a une seule parole de Jésus qui est authentique. Et cette parole a tellement peu d'importance pour vous que vous ne vous souvenez même plus de laquelle. Ok, au revoir, messieurs. Et il est parti. Après s'être fait conspuer. Et il leur a dit ceci, comment voulez-vous que les Juifs croient en Jésus si vous-même vous n'y croyez pas, les chrétiens? Il est parti. Alors, voilà, ça, Bultmann a fait un tabac, il est encore aujourd'hui, l'idée du kérigme et du mythe, etc., du Jésus de l'histoire et du Jésus de la foi, vous trouvez ça partout maintenant. Les émissions d'Arte ont repris ça, etc. Alors voilà ce que écrit Bultmann à ce sujet. L'image du monde dans le Nouveau Testament est mythique. Le monde est comme un édifice à trois étages. Au milieu, la terre, au-dessus d'elle, le ciel, en dessous, le monde infernal. Le ciel est la demeure de Dieu et des êtres célestes, les anges. Le monde inférieur, c'est l'enfer, le lieu des tourments. Mais la terre n'est pas seulement le lieu d'un déroulement naturel quotidien, d'une vie de prévoyance et de travail basée sur un ordre et sur une règle. Elle est aussi le théâtre où agissent des forces surnaturelles. Dieu, ses anges, Satan, ses démons, dans le déroulement normal des faits humains, dans la pensée, l'action, la volonté de l'homme, interviennent les forces surnaturelles, le miracle n'est pas chose rare. À cette cosmologie mythique correspond la représentation de l'événement salutaire, qui constitue le contenu propre de la révélation évangélique. En langage mythologique, le message dit « Le temps est venu ». Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Celui-ci, être divin, préexistant, apparaît sur la terre comme un homme. Sa mort sur la croix, celle du pécheur, représente une expiation pour le péché des hommes. Sa résurrection est le commencement de la catastrophe cosmique, par lequel la mort introduite dans le monde par Adam est annulée. Les puissances démoniaques du monde sont dépouillées, le ressuscité est monté au ciel. Vous voyez, il parle, il a bien compris le message biblique, ça, il le résume à merveille. Où il siège à la droite de Dieu, il est fait seigneur et roi, il reviendra sur les nuées pour consommer l'œuvre du salut, c'est alors qu'auront lieu la résurrection des morts, le jugement, alors seront anéantis le péché, la mort et toute douleur, le temps est proche. Paul pense qu'il assistera en personne à cet événement. Dans la mesure donc où il s'agit d'un discours mythologique, il est devenu inacceptable pour l'homme d'aujourd'hui. La prédication chrétienne actuelle se trouve par conséquent devant ce problème. En demandant aux hommes de croire, leur demande-t-elle aussi de reconnaître la cosmologie mythique de jadis? Si c'est impossible, une autre question se pose. La prédication du Nouveau Testament a-t-elle une vérité qui soit indépendante de cette cosmologie? Voilà. Il faut trouver une vérité chrétienne qui soit indépendante du mythe. Et serait-ce alors le devoir de la théologie de démythologiser le message chrétien? Voilà, ça c'est toute la démarche, la pire, la plus destructrice auquel le monde chrétien ait jamais assisté. Bultmann est la catastrophe des catastrophes de ce siècle. Et le christianisme moderne, occidental, n'est pas guéri de Bultmann. Et même si on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le post-bultmannisme, où quand même on s'efforce de retrouver un peu le Jésus de l'histoire, on raisonne encore selon des schémas bultmanniens. Et notamment cette différence entre ce qu'on appelle en allemand « historier » et « Geschichte », c'est ça? Tu ne connais pas ces deux mots? Comment? Historier et Geschichte. L'historier, c'est les événements historiques tels qu'on les conçoit. Ça veut dire Napoléon est mort à Sainte-Hélène, etc. Bon, ça c'est historier. C'est un fait. Geschichte, c'est dire mais l'interprétation de ça, quoi. Comment se fait-il? C'est de l'histoire, mais interprétée, quoi. Et on dit, voilà, la Bible, c'est pas de l'historier, c'est de la Geschichte. C'est-à-dire, c'est une histoire réinterprétée, donc une histoire qui, finalement, n'est pas très exacte, quoi. Bon, voilà, on verra la prochaine fois, si vous voulez, la suite de cette triste histoire qui a sapé les bases même du christianisme, y compris dans le catholicisme, parce que les catholiques, les théologiens catholiques, sont aussi bultmanniens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?